Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez. Bonjour à tous, Aurélie pour Erdiwa. J'ai la chance aujourd'hui d'être en présence de Daniel Pic. Donc Daniel Pic, présidente du parc naturel régional du Vercors, mais pas que, et c'est là où on va aller creuser. Donc déjà, bonjour Daniel.
Bonjour.
Si vous voulez bien, bah peut-être vous faites une petite présentation et puis au fur et à mesure de la conversation, je vous poserai des questions personnelles, voire intimes.
Bon, alors on va tenter le coup, on va voir si je vais répondre à toutes vos questions d'abord. Eh bien écoutez, je suis une Dromoise d'adoption parce que je suis née dans le Vaucluse. Et j'ai passé quand même toute ma vie dans la Drôme, donc depuis Montélimar jusqu'au Royan, puisque je suis arrivée dans le Royan en 75. Je ne sais plus faire le calcul, il faudrait que je regarde ça. Bon, donc je suis arrivée dans le Royan professionnellement, puisque je suis enseignante dans l'enfance inadaptée, c'est-à-dire spécialisée, et qu'à l'ouverture du centre MGN pour polyhandicapés, je suis donc venue m'installer dans le Royan pour y travailler. Et voilà, et puis en 98, alors que je n'avais fait jusque-là que du syndicalisme, de l'associatif, je me suis lancée, disons, en politique.
Comment vous faites la bascule entre l'engagement solidaire, presque social, et l'engagement politique auquel vous répondez aujourd'hui ?
Alors, il se trouve que je suis d'une famille quand même très engagée politiquement, et c'était d'ailleurs pour ça que je m'étais pas engagée moi-même, en disant « ça suffit comme ça ». Et en 98, mon père était décédé depuis 7 ans, donc j'avais pas l'impression de profiter, j'allais dire, de son appel politique, même si j'avais toujours été très concernée, bien sûr, par la vie donc de la cité, la vie du pays, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, même si j'avais pas fait le pas de m'engager de ce côté-là. Les engagements associatifs et syndicaux m'avaient tout à fait satisfaite et permis d'avoir une autre forme, effectivement, d'engagement.
Donc, première mise en bouche par un papa visiblement engagé. Vous pouvez nous parler de cette famille ?
Eh bien, mon père a été, oui, à la sortie de la guerre, rentrant de prisonnier en Allemagne, s'est engagé politiquement donc sur la région de Montélimar, maire d'un village, maire de Montélimar, sénateur, député, bon voilà, président du conseil général de la Drôme. Et ça a été effectivement un bain pour moi, le bien public, les affaires, l'intérêt général, voilà, c'était les conversations à la maison. Et je les remercie mes parents parce que c'est vrai que c'est une bonne formation. Après, tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie tout court.
Quel enfant étiez-vous ?
Je peux en parler maintenant, parce que je suis grand-mère, donc les petits-enfants, on peut leur dire ce qu'on ne disait pas à ses propres gosses. J'étais une enfant assez insoumise, pas très docile, et puis qui avait toujours envie d'aller voir plus loin si l'herbe était verte. Et c'était, je pense... un peu stressant pour ma mère et le reste de la famille, mais voilà, je me suis construite comme ça.
Et j'ai l'impression que c'est resté ça.
Un petit peu, oui, j'ai pas peur des chutes, des coups, et puis on avance quand même, c'est bien.
Vous aviez des frères et sœurs ?
Oui, j'ai une sœur, et puis après j'ai eu des demi-sœurs et demi-frères, voilà, mais... Je me suis finalement sentie... J'ai une sœur beaucoup plus grande, beaucoup plus âgée que moi. Donc c'est vrai que j'avais un peu le sentiment d'être seul enfant à la maison. Et puis, mais beaucoup d'amis, donc c'était pas un problème.
Et les amis, justement, alors, comment ça se passe à l'école avec vos amis?
Vos camarades, ou même dans la rue, remarquez.
Oh, ça se passe bien, c'est surtout, pas dans la rue, c'était dans un village, donc c'était surtout sur la colline, dans les remparts, on était, voilà, on allait jouer, on partait des après-midi entières, les jeudis à l'époque, quand c'était pas la journée avec le pique-nique. Et alors les parents qui étaient un peu inquiets, parce qu'on était une équipe de kamikazes, nous obligeaient toutes les heures à venir sur un point où ils nous voyaient d'en bas, faire coucou pour montrer que tout allait bien. Vous voyez, c'est les premiers souvenirs qui me viennent. À part ça, ben, j'ai le souvenir de vélos sur lesquels on a changé régulièrement tous les mois les roulements à billes parce qu'ils étaient cassés. Et les tabliers que je déchirais parce que je me faisais transporter par les copains en vélo sur le guidon et puis que je tombais et que je me déchirais. Enfin voilà, c'était un peu garçon manqué et le souvenir que je garde de cette enfance.
Et en grandissant alors, un garçon manqué, bah, visiblement vous le préservez quand même, j'ai l'impression.
Oui, ça ne me dérange pas. Fort heureusement, à côté de ça, j'avais un côté plus calme. À l'époque, pas de télé, donc j'ai commencé à lire très tôt et je continue toujours. Voilà, je ne me couche pas sans avoir lu. Donc quand je rentre de réunion, c'est des fois très tard après, parce que si le livre m'intéresse, je suis capable de lire jusqu'à 3 heures du matin avant de me coucher.
Vous êtes porté donc par les mots, l'imaginaire. Et puis,
voilà, cette... j'allais dire, ce besoin d'être aussi au service des autres.
Et donc là, dans votre scolarité, ça se traduit par des études dans le domaine ou alors...
Oui, tout à fait, puisque je m'engage dans l'enseignement et que très vite, dès les stages d'école normale, je pars dans l'enfance inadaptée.
Donc, qu'est-ce qui vous appelle là?
Ben, c'est effectivement, d'abord, je vais vous dire... Je suis maintenant une retraitée depuis longtemps de l'éducation nationale. C'est dire que moi, comme dit l'autre, je vous parle d'un temps qui est un peu loin, mais où quand j'ai commencé à faire des stages en classe, on changeait d'activité toutes les 20 minutes. Vous faisiez une leçon de français, puis 20 minutes, vous coupiez, vous passiez aux maths, et puis vous reveniez à l'application du français par des exercices. Et... moi, j'avais le sentiment de vivre avec une montre en permanence. Et c'était horreur parce que c'était pas mon style. J'ai pas de montre. Donc, quand j'ai fait mon stage en enfance inadaptée, je me suis trouvée dans une toute autre ambiance. Voilà, on prenait le temps, on était à l'écoute des gosses. Si une activité marchait, on la continuait. Et puis, on passait à une autre quand il fallait les raccrocher, quoi. Mais on n'était pas de cette façon-là à vivre au chrono. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Et du coup, voilà pourquoi je suis partie vers là où je pouvais... un peu faire comme je l'entendais et non pas être esclave de ma montre.
Ok, donc moi j'avais parlé d'altruisme, d'empathie, de « non, vous êtes juste top chrono, ça vous convient pas ».
Ah oui, ça c'est sûr, j'ai quitté les montres maintenant. Et...
donc retraité de l'éducation nationale, donc ça fait une bonne carrière ça déjà.
Oui, c'est bien, je me suis régalée. Bon, je suis partie à la retraite parce que je faisais autre chose et que c'est toujours bien de découvrir autre chose, mais je ne me suis ni fatiguée, je me suis fatiguée de l'enseignement spécialisé que j'ai quitté au bout de quasiment 25 ans. Et j'ai fini en essayant un peu tous les niveaux de l'éducation nationale, cycle normal. J'ai fait du primaire et puis j'ai fait de la maternelle, j'ai terminé en maternelle, voilà.
Sans l'envie de continuer.
Si, j'aurais bien continué, mais bon, j'avais mes mandats qui me prenaient aussi, donc voilà, j'ai fait le choix de laisser la place aux jeunes.
Donc justement, cet engagement politique, il arrive quand sur votre parcours ?
98, alors que j'ai pris ma retraite en 2000.
La transition se fait hein, sur les deux dernières années ?
Voilà, mais j'ai commencé par travailler qu'à mi-temps ces deux années-là, pour prendre quand même du temps pour mon mandat, parce que sinon je ne pouvais pas tout faire. Et j'ai eu affaire à des inspecteurs très compréhensifs qui, évidemment, ont accepté que je travaille à mi-temps et qui m'ont adapté le poste pour que je puisse faire conjuguer les deux, quoi.
Comment vous arriviez à conjuguer justement votre vie de femme et votre vie professionnelle qui vous prend visiblement déjà beaucoup de temps?
Et je ne sais pas, il me semble que c'est automatique. Enfin non, on sacrifie quand même passablement sa vie personnelle pour la vie politique, si on veut être présent, si on veut assurer l'essentiel, et puis si on veut aussi être sur des manifestations, sur des réunions d'associations, pour qui la présence d'un élu, c'est une reconnaissance. Et moi, je pense que des personnes qui y passent du temps, de leur temps libre, d'une autre façon à travailler pour les autres, c'est la moindre des choses que d'être reconnaissant et d'être là et de les soutenir, évidemment. Donc, quand on ajoute tout ça, c'est vrai que, par exemple, ce week-end, eh bien, j'ai pas eu de week-end, quoi. J'ai été prise le samedi matin, après-midi, soir, dimanche après-midi. Voilà. Dimanche matin, pour soi, c'est un peu juste. Bon, il y a des week-ends où on a ces deux jours. Mais on arrive à une saison où ça ne sera pas forcément des week-ends bien calmes.
Ouais. Comment le vivent ça vos enfants, cette maman très professionnelle et du coup absente?
Je suis plus maman avec des enfants à la maison.
Mais à l'époque
ils étaient déjà plus à la maison. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance. Les choses se sont présentées au bon moment pour moi. Ceci dit, quand j'avais un engagement associatif ou syndical, et ils étaient jeunes, mes enfants, ils ont bien vécu les choses. On a toujours dit franchement ce qu'il en était. Et surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'à plusieurs, on se passait le relais quand, avec les copines, avec ma famille, moi. Voilà, on se relayait. Ils n'étaient pas abandonnés pour autant. Je ne les ai pas mis à la DAS. Dans le placard enfermé pendant que je partais en réunion. Voilà. Non, moi, je pense que quand on veut, on peut vivre les choses aussi en famille, quoi. Voilà.
Oui, et puis voilà, à partir du moment où vous avez communiqué aussi avec vos enfants, bon, ils n'en ont pas pâti. Donc, on connaît hein, de vos loisirs la lecture, mais what else?
Ah, les voyages. Voilà, les voyages. Et c'est vrai que quand je peux m'échapper, je pars. Je pars au moins une fois par an dans le désert en particulier, voilà. Je vais me ressourcer.
Lequel ?
Oh, j'en ai fait plusieurs, mais j'aime beaucoup le Sahara quand même.
D'accord, c'est très beau.
C'est la culture, c'est quoi ? C'est le désert lui-même.
Oui, je pense qu'on retrouve une paix intérieure, on se retrouve au calme, je sais pas, en face de soi-même, dans cette immensité, avec les Touaregs qui sont des gens adorables, c'est vraiment très bien. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Le jour où je ne pourrai plus, ça va me manquer. À tel point que mes petits-enfants, pour l'anniversaire de leurs 10 ans, je les emmène une semaine dans le désert. C'est leur cadeau d'anniversaire. Voilà.
Vous l'expliquez, ça, cet attrait pour le désert? Ouais, c'est...
Je ne sais pas. Non, je ne l'avais pas pressenti. Et puis, une chose qui me faisait très envie, c'était l'Égypte. Voilà, après les études, enfin, tout ce que j'avais lu. Et donc, en 77, je suis allée en Égypte pendant plus de 3 semaines. Et donc, j'ai fait des petits bouts de désert par-ci, par-là. Et c'est là que j'ai compris que, je ne sais pas, j'y finirai peut-être pas ma vie, mais j'y retournerai tant que je pourrai.
Je ne sais pas si ça se fait, mais on peut peut-être évoquer vos obédiences religieuses, si toutefois vous en avez.
Non, je n'en ai pas. Je crois en l'homme et voilà. Je trouve que c'est déjà un beau challenge et un beau pari et une belle utopie. Donc non, je n'ai pas d'obédience religieuse.
Mais vous parlez d'utopie. Laquelle serait la vôtre, admettons
Qu'il trouve son bonheur dans la mesure, dans l'équilibre, dans le respect, voilà, de lui-même et des autres.
Allez, Daniel Pic, on arrive au bout de l'entretien. Un petit exercice de style. Si vous aviez trois mots pour vous définir, lesquels seraient-ce?
Ça, alors, j'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux autres. Parce que à soi-même, c'est un peu difficile.
En toute subjectivité.
Oui. Je ne sais pas vous dire. Alors, qu'est-ce que je dirais? Non, là, vous me coincez.
Non, je suis sûre vous allez y arriver.
Je ne sais pas que vous dire. Bon, engagement, c'est sûr, de toute façon. Amitié. Bon, pour ne pas dire amour, c'est une façon aussi de... Et puis, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Fidélité.
C'est beau.
Ça vous va?
Ouais, ça va.
Bon.
Qu'est-ce que vous avez à dire, là? Vous avez l'opportunité de donner un petit message. Choisissez celui qui vous convient.
Alors ça, mais vous vous rendez compte de l'immensité de la tâche que vous me mettez là devant moi? Je sais pas. J'aurais peut-être envie de dire aux gens d'être eux-mêmes, de pas être toujours sur la défiance, et de faire confiance aussi. Et puis d'aller vers les autres, c'est tellement enrichissant. Je crois que c'est déjà un beau programme, non?
Ouais, c'est déjà bien.
Vous pensez qu'on a fait le tour de Daniel Pic en privé?
Oh, pourquoi pas, après on va aller dans les... peut-être aller à l'essentiel, après on peut aller sur les manifestations de tels traits de caractère ou pas, oui.
On y va?
Mais vous êtes curieuse quand même, je vous trouve.
Oui, je suis curieuse, bien sûr. Moi, j'ai envie d'approfondir l'amitié, puisque vous l'évoquez dans les trois mots qui vous définissent. Quel genre d'ami vous êtes? Fidèle aussi, puisque vous l'évoquez toute seule.
Oui, c'est sûr. Je pense très franche, très directe. C'est pas toujours une qualité, d'ailleurs. Après, je me dis souvent quand même, t'aurais pu le dire autrement, ou voilà. Mais bon, je crois qu'une fois que les gens le savent, la portée est différente. Je pense que je suis à l'écoute et que je suis capable de ressentir quand quelqu'un va pas bien, même au téléphone, qui est quelque chose dont j'ai horreur, parce qu'effectivement, j'aime mieux être bugne à bugne avec les gens. Voilà. Disponible. Ben, c'est déjà beaucoup. Allez, ça suffit. Pas trop en dire. Après, ils vont être exigeants avec moi, ça c'est bon.
Et puis, ils vont connaître vos petits secrets. On n'est pas allé taper trop dans l'intime, vous reconnaîtrez.
Non.
Mais moi, je souhaite bon vent au parc, à toutes vos entreprises, à votre famille, à vos amis. Puis, je vous remercie de vous être prêté au jeu de l'interview.
C'est gentil d'être venu et d'avoir pris ce temps. Bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous. Pour complémenter le sujet qu'a fait Aurélie sur Madame Pic, nous vous proposons un deuxième sujet sur la prochaine fête du bleu qui aura lieu à Grèce-en-Vercors le 10 et 11 août. Un événement qui a lieu depuis 13 ans, qui a été initié par le parc pour promouvoir le bleu de Sassenage. C'est organisé par la communauté de communes du Trièves, l'APAP, l'Association pour la promotion des agriculteurs du parc, et bien sûr le parc naturel régional du Vercors qui en finance une partie. Avec moi en conversation téléphonique, Nicole Morel de l'APAP. Bonjour Nicole Morel.
Bonjour.
Alors j'ai fait une petite introduction, est-ce que vous souhaiteriez compléter, surtout nous dire un peu la genèse de cette fête du bleu depuis ces 13 ans qu'elle existe, à quoi sert-elle?
Oui, la fête du bleu, à l'origine, elle a été faite donc en 2001 sur une initiative du parc naturel du Vercors qui voulait promouvoir la toute nouvelle AOP locale qui était le bleu du Vercors Sassenage. Et puis au fil des années, elle a pris un peu d'importance et aujourd'hui c'est devenu non seulement la fête du bleu mais également la fête de tout le territoire du parc. Cette fête a lieu toutes les années et elle Elle transhume chaque année sur un village différent du parc, une fois côté Drôme et une fois côté Isère. Jusqu'à maintenant, elle avait lieu en général sur le plateau du Vercors, dans la zone AOC. Et aujourd'hui, eh bien, elle s'éloigne un peu de cette zone pour avoir lieu dans le Trièves, à Grèce-en-Vercors.
Alors c'est un gros événement. Que s'y passe-t-il en général ?
C'est une fête. Donc évidemment, il y a plein d'animations, de jeux pour les enfants, des concerts. Mais c'est surtout une image de l'agriculture et du parc du Vercors en général. Donc on trouve tous les animaux locaux de l'agriculture locale, les productions fermières, mais également tout ce qui est patrimoine, la diversité qu'on peut trouver sur le parc, tout ce qui est savoir-faire. Enfin voilà, on essaie de promouvoir tout ce qui fait un peu l'originalité du territoire du parc. Et puis évidemment, il y a un chapiteau du parc du Vercors où il présente ses actions. C'est une fête assez importante puisque chaque année, on a entre 15 000 et 20 000 visiteurs.
Alors ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui présentent leur production ou...
Voilà. Chaque fois qu'on est dans un secteur différent, ce sont les agriculteurs du secteur qui viennent présenter leurs animaux. Ensuite, au niveau des productions, c'est tout le parc du Vercors. Et cette année, c'est également toute la communauté de communes du Trièves.
Alors, j'ai présenté en préambule rapidement trois des principaux organisateurs de cette fête du bleu. Y en a-t-il d'autres? Et est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste d'organiser cette fête annuelle?
Oui, au niveau des organisateurs, il faut aussi ajouter le syndicat du bleu du Vercors, le CIVER. Et puis bon, la mairie de Grèce qui nous aide pas mal. Alors, ce que ça représente, ça représente 9 mois de travail avec énormément de bénévoles, de participation, de gens qui sont sur le territoire où a lieu la fête du bleu. Cette fête du bleu, elle a chaque année un parrain ou une marraine. Donc cette année, le parrain, c'est François Dom, qui a été présentateur pendant plus de 25 ans du journal des Alpes à Grenoble et qui a accepté de parrainer cette édition.
Depuis 2001 qu'elle existe, cette fête, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a eu un impact et sur le bleu, voire plus généralement sur la vie du Vercors, voire sur les productions des agriculteurs locaux?
Elle a eu un impact sur le bleu, c'est sûr, qui est de plus en plus connu. Et c'est pour ça qu'à la limite, on essaye aujourd'hui d'aller le faire connaître un peu plus en dehors de la zone AOC. Elle a eu un impact, je dirais, plus social aussi sur les gens, parce que c'est des gens de plusieurs professions différentes, de plusieurs secteurs du Vercors qui travaillent ensemble pour cette fête du bleu. Et en général, on assiste à des rencontres intéressantes qui se poursuivent après avec des créations d'associations, des choses comme ça. Ça rapproche les gens du parc du Vercors.
Est-ce qu'ils fabriquent plus de bleu depuis que c'est plus connu?
Le tonnage de bleu, il augmente toutes les années au niveau de la fabrication parce que donc l'AOP est de plus en plus connue et appréciée. Mais bon, après, quel est l'impact de la fête du bleu, c'est difficile à dire parce qu'il y a d'autres actions de promotion de ce fromage.
Nicole Morel, maintenant on pourrait peut-être passer à ce qui attend les gens qui vont faire le déplacement ce 10 et 11 août à Grèce-en-Vercors.
Oui, c'est de nombreuses choses. Alors comme... il y a beaucoup de choses qui sont présentées sur une fête du bleu. On l'organise par pôle. Donc il y a un pôle agriculture, un pôle gastronomie produits fermiers, un pôle d'activité de pleine nature qui est beaucoup plus sportif, un pôle de diversité culturelle, et puis bon, un peu partout, donc des spectacles et des jeux pour enfants. Donc je vais peut-être présenter cette fête du bleu selon les pôles. C'est-à-dire qu'au niveau de animaux et agriculture, il y a la présentation des animaux, que ce soit les vaches, les chevaux, les chèvres, les brebis, etc., locaux, qui restent là 2 jours.
Des animaux spécifiques aux Vercors?
Oui, il y a les animaux, il y a les 3 races locales du Vercors, c'est-à-dire le cheval du Vercors, la villarde et la poule du Vercors, la crise du Vercors, qui sont présents. Il y a aussi d'autres races, quoi. C'est tous les animaux qu'on trouve sur le territoire. Donc sur ce pôle, il y a des animations au long de la journée, c'est-à-dire des démonstrations de fabrication de bleu, des présentations d'animaux, des démonstrations de débardage avec des chevaux, de tontes, enfin voilà, pour que les gens connaissent mieux l'agriculture. Sur le pôle gastronomie produits fermiers, donc c'est un pôle qui est très important puisqu'il y a de nombreux producteurs fermiers qui viennent présenter et vendre leurs produits. Et cette année, on a mis un petit point sur la gastronomie, quoi, essayer de la mettre un peu plus en valeur. C'est-à-dire qu'il y aura des ateliers cuisine qui sont organisés par Cuisine et Passion, une association de Villard-de-Lans, avec la participation de d'autres cuisiniers. Et ces ateliers cuisine, il y en aura également qui seront proposés pour les enfants, pour leur apprendre à faire des petites recettes. Donc le but, c'est de valoriser les produits, le bleu du Vercors et les produits fermiers locaux dans la cuisine avec des recettes un peu originales.
Je vous prie de m'excuser, avec des recettes spéciales vertaco-mycoréennes ou pas? Y aura-t-il une cuisine spéciale liée au Vercors?
Ces ateliers gastronomiques ne proposent pas de recettes traditionnelles du Vercors, mais plutôt des recettes plus innovantes, mais avec les produits fermiers du Vercors. Ensuite, il y a le pôle activité de pleine nature. Donc là, c'est pour présenter tous les sports qu'on peut faire dans le Vercors. Bon, cette année, on aura une tour d'escalade, on a des initiations au VTT, au tir à l'arc, au slackline, qui est un nouveau sport assez en vogue, à la marche nordique. Et puis, on a fait un zoom cette année sur... puisque le Trièves est un lieu qui met l'accent sur... Dans le Trièves, l'accent est mis sur le tourisme adapté au public handicapé. Donc cette année, on accueille l'association des rêves et des centres qui propose des randonnées pour ces publics et qui va présenter le matériel qu'ils utilisent, le matériel adapté. Donc ça sera évidemment à disposition du public handicapé qui veut essayer d'utiliser et puis également du public valide. Il y a aussi le pôle diversité culturelle, donc là c'est les patrimoines et puis tout ce qui, bon, c'est plus lié au territoire d'accueil, puisque c'est le patrimoine du Vercors, mais surtout du territoire. Donc il y aura des expositions, entre autres par exemple sur la fruitière de Grèce qui a fonctionné pendant 100 ans. Il y a un accueil des auteurs locaux qui viennent vendre et dédicacer leurs livres. Et puis il y a toutes les associations locales qui veulent présenter ce qu'ils font. Il y aura pas mal de projections de films, puisqu'on a une association qui fait des projections de films sur le Trièves, l'écran vagabond. Voilà, entre autres, vous aurez aussi la passion du bois qui permet aux gens de s'initier au travail du bois, qui met à leur disposition du matériel de découpe, de tournage. Voilà, il y a plein de choses. Ce pôle est très divers parce que justement, tous ceux qui veulent montrer un peu ce qu'ils font et puis les associations patrimoine et autres qui veulent montrer sur quoi elles travaillent viennent présenter sur ce pôle. Et le dimanche, on aura également l'association Georges Antonin qui présente des vieux métiers, voilà, qui va vous montrer comment le métier du forgeron, enfin toutes sortes de métiers, une vingtaine de métiers.
Et vous m'avez dit que c'était une fête, donc il y a aussi un pôle festif.
Évidemment, il y a un pôle festif, donc il y a des spectacles en journée et puis surtout les soirées, le samedi soir et le dimanche soir. Il y a des concerts de groupes locaux de préférence, parce que dans le Trièves, il y a pas mal de groupes locaux, donc on a invité d'abord ceux-là. Et ces concerts sont très variés, c'est-à-dire que ça peut aller du rigodon, vous avez des chansons hispaniques, du flamenco et puis évidemment du rock et des musiques à danser.
On pourra trouver tous ces renseignements qui informent le futur public de la richesse de vos propositions sur un média du style site internet?
Oui, tous les renseignements de la fête ainsi que tout le programme peuvent être trouvés sur le site www.fetedubleu.org. En attendant, si vous voulez visiter le Trièves sur Facebook, je n'ai pas l'adresse exacte, mais vous avez le voyage de Bleuette. Et en fait, Bleuette, c'est la mascotte de la fête du bleu qui actuellement se promène dans tous les petits coins de Trièves et vous pouvez la suivre sur Facebook.
Ben, c'est passionnant tout ça. Voilà un programme digne de ce nom. Eh bien, Nicole Morel de la PAP, merci d'avoir accepté de nous préciser ce qui nous attend lors de la fête du bleu du 10 et 11 août à Grèce en Vercors. Merci.
Ben merci à vous, et puis ben je vous attends ce week-end-là à Grèce.
Sait-on jamais. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Côté Parc. Une émission dédiée au Parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le Parc Naturel Régional du Vercors. Côté Parc, comme si vous y étiez.